soir, le ministre du Travail a interdit à 49 services privés de sous-traitance d'exercer à Kinshasa. Au cours d'une conférence de presse organisée le week-end dernier, il reproche à ces services d'avoir outrepassé leur mission et de gagner beaucoup plus d'argent sur le dos des travailleurs. Comment analyser cette décision du ministre? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Maître Guilhem Aléré, directeur de cabinet adjoint du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Maître Maléré, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir aux auditeurs.
Polydor Tanguely, psychologue du travail, analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Monsieur Tanguely, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et Michel Somoué, analyste économique, ancien directeur général de la FENAPEC. Michel Somoué, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Modeste Bahati-Lukwebo, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, vient de sanctionner 49 services privés de sous-traitance. Il leur reproche de fonctionner dans le mépris des textes légaux et réglementaires. On l'écoute au micro d'Innocent Olinga.
Ces services n'ont pas pour rôle la sous-traitance ou la sous-entreprise. Ces services ont pour rôle justement de mettre en contact les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi. Et ça doit se limiter là. Une fois que le demandeur d'emploi est en contact avec l'employeur et qu'il a signé son contrat de travail, la gestion administrative, la gestion de la carrière, la gestion de la rémunération et tout ce qu'il y a comme corollaire et qui est consigné dans le contrat du travail, revient à l'employeur. Mais de plus en plus, nous constatons que beaucoup de grandes sociétés, même des petites, une fois qu'elles ont confié à un service de placement la tâche de trouver les travailleurs dont ils ont besoin, ils se délaissent de toute responsabilité vis-à-vis des travailleurs, ce qui est une violation de la loi.
Maître Guilhem Aléré, vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. On vient de suivre le ministre. Revenons dans les détails. Qu'est-ce qui est reproché à ces services?
Oui, merci beaucoup Alain Hirung. La problématique du fonctionnement des services privés de placement en RDC date d'avant Son Excellence Monsieur le Ministre Bahati-Lukwebo, dans la mesure où au départ c'est une profession, si on peut se l'appeler, qui est organisée par le Code du Travail. Donc une personne physique ou morale peut s'installer comme service privé de placement en étroite collaboration avec l'ONEM hein, qui selon l'article 205 du Code du Travail est censé n'est-ce pas régenter cet aspect des choses hein, en étroite collaboration avec les services privés de placement qui pour l'essentiel n'est-ce pas identifient les demandeurs d'emploi, les enregistrent auprès d'elles et enregistrent les offres d'emploi auprès des entreprises et ont pour rôle donc de mettre en contact les demandeurs d'emploi et ceux qui offrent cet emploi et selon les profils qui est requis par l'entreprise qui offre l'emploi. Une fois ce service accompli, bien l'entreprise est rémunérée pour ce service rendu à l'employeur. Et donc, ces employés sont ainsi placés, donc deviennent à part entière des travailleurs en principe de l'employeur qui a offert l'emploi, qui signe avec ces gens des contrats de travail. Alors, c'est pour cette activité-là précise que ces services privés de placement sont censés être agréés ou autorisés à fonctionner. Alors, le problème est venu de la pratique. Dans la pratique, la plupart obtiennent une autorisation pour une chose, c'est-à-dire pour le placement des travailleurs. Mais dans le fonctionnement, on se rend compte que finalement, les travailleurs ainsi placés ne signent même pas de contrat avec l'entreprise concernée, sont considérés comme demeurant des travailleurs du service privé de placement, qui reçoit de l'employeur la rémunération de ces gens-là, et, ainsi que par principe tous les autres droits dus à ces travailleurs, mais qui finalement, et c'est là qu'il y a des abus, ne s'acquitte pas correctement des obligations d'un employeur vis-à-vis de ses travailleurs. Ils prétendent, ces services privés de placement, que ce sont leurs travailleurs, mais dans la pratique, on se rend compte que dans le paiement de la rémunération, ils ne respectent pas notamment le salaire décent qui doit être remis aux travailleurs, et ils n'assurent pas des obligations comme les soins médicaux, ils ne versent pas les cotisations sociales qui sont dues à l'INSS pour ces travailleurs qui sont censés, à la fin, n'est-ce pas, de leur carrière, être bénéficiaires d'une pension ou d'une allocation de retraite. Ils ne payent pas les droits à la formation professionnelle qui, en contrepartie, n'est-ce pas, amène l'employeur à payer une taxe à l'INPP pour que l'INPP puisse assurer le perfectionnement sur le lieu du travail, notamment de l'employeur en question. Bref, toutes ces obligations légales qui pèsent sur un employeur normal, ces services privés de placement ne les assument pas. Je parle de celles qui fonctionnent en marge de la loi, donc ne les assume pas, et c'est le travailleur qui en définitive qui est lésé, et l'employeur utilisateur effectif, lui se décharge de toutes ses obligations sur ses services de placement qui eux ne les assument pas, et finalement on est dans une situation où les droits dus aux travailleurs sont tout simplement éludés par ces mécanismes là.
Alors maître, c'est un problème qui date de longtemps, vous l'avez dit, mais pourquoi sévir maintenant seulement?
Comme vous le savez, je crois que ceux qui ont été à la conférence, vous avez évoqué la conférence de presse tenue par son Excellence Monsieur le Ministre de l'Emploi et du Travail le 15 novembre 2014, donc c'était un samedi au centre interdiocésain, l'ont entendu dire que pour le gouvernement de la République, il y a le principe du partenariat public-privé qui fait que on privilégie le dialogue entre le pouvoir public et les opérateurs économiques notamment, qui investissent dans divers secteurs, y compris celui des activités de placement dans notre pays. Et donc par rapport à cela, il y a eu énormément d'activités de dialogue, une approche de dialogue pédagogique qui avait d'abord été privilégiée, qui a été couronnée notamment au mois de décembre par une table ronde organisée par l'ONEM, qui est l'Office National de l'Emploi, qui a sensibilisé tous les opérateurs qui œuvrent dans les services de placement pour attirer l'attention sur le fait qu'il y a de plus en plus de plaintes des organisations représentatives des travailleurs qui dénoncent des comportements tout à fait abusifs et qui ont été effectivement constatés sur le terrain et qui font que les employés apparaissent comme des laissés pour compte. Et donc, à un moment donné, l'État ne pouvait pas continuer à laisser pourrir la situation. Et comme vous le savez, le chantier emploi est l'un des chantiers majeurs du gouvernement et donc il a fallu sévir.
Alors, maître, cette émission est également pédagogique, vous le savez. À quel moment parle-t-on de sous-traitance ?
D'ailleurs, c'est toute la confusion qu'il y a sur la terminologie. Ici, quand nous parlons de placement, j'ai expliqué, donc on prend quelqu'un qui a besoin d'un travail, on l'amène auprès d'un employeur qui a aussi besoin d'un travailleur, on met les deux en contact et on les laisse conclure un contrat. Bon, ça c'est le placement. La sous-traitance, ou un peu la sous-entreprise telle que définie dans notre code, bien consiste, elle, à prendre son propre personnel à soi et avec ce personnel-là à aller effectuer des tâches pour le compte d'une, n'est-ce pas, entreprise qui vous rémunère pour les tâches que vous avez accomplies pour cette entreprise-là, mais le personnel demeure le vôtre sous votre entière responsabilité. C'est vous qui le payez, c'est vous qui assumez tous les droits vis-à-vis de l'État de ce personnel-là.
Merci. Michel Somoué, vous êtes analyste économique, ancien directeur général de la FENAPEC. Michel Somoué, comment vous analysez cette décision du ministre?
Alain, d'abord, il faut, à mon humble avis, féliciter le ministre du Travail pour sa détermination à remettre de l'ordre dans le secteur de l'emploi en prenant la mesure qu'il vient de prendre. Parce que, comme a dit son directeur de cabinet adjoint, ce sont des agences de placement. Théoriquement, les agences de placement sont des simples commissionnaires. N'oubliez pas que le problème ici, comme je l'ai toujours dit, c'est une question d'organisation et de structuration de l'économie en tant qu'ensemble des marchés. Là, nous sommes sur l'un des marchés dont j'ai toujours parlé, c'est-à-dire le marché du travail, qui au Congo, malheureusement, fonctionne en désordre, on dirait dans une sorte de jungle. Les chercheurs d'emploi ou les demandeurs d'emploi sont victimisés comme ça par des structures qui se font passer pour des vampires. À partir du moment où c'est le ministre du Travail qui est l'autorité, à ma connaissance, qui accorde l'agrément à ces agences en tant qu'agence de placement, il connaît très bien les contours, si vous voulez, les obligations auxquelles souscrivent ces agences-là. Elles ne viennent pas comme des bureaux de sous-traitance, parce qu'elles n'ont pas le contrat de sous-traitance avec les entreprises qu'on appelle les employeurs. Elles sont agréées comme agences de placement des agents auprès du ministère du Travail. Mais là, c'est le point positif. Mais il faut reconnaître aussi que si on en est là, c'est parce que l'Office national de l'emploi auquel fait allusion le directeur du cabinet adjoint du ministre, il est défaillant dans ses attributions. Depuis des années, cet office avait été créé pour lutter contre le chômage en effectuant justement des opérations de placement des chercheurs d'emploi auprès des employeurs. C'était ça la mission de l'ONEM. Mais l'ONEM n'a jamais réussi à placer les agents à la quête de l'emploi. Voilà, nous savons, nous sommes un pays, comme vous le savez, où c'est officiel, où le taux de chômage est probablement le plus scandaleux de la planète. Le gouvernement qui a précédé celui de M. Matata avait eu la sincérité de nous avouer que le taux de chômage était estimé à 96%, même si aujourd'hui on essaie de falsifier les chiffres pour les ramener autour de 53%, maintenant on parle de 49, 51, etc. Mais nous savons tous que le taux de chômage est trop élevé et que c'est à la faveur de cet excès de chômage que des opportunistes se dressent de toutes parts, de tous bords, pour torpiller davantage les citoyens congolais qui ont besoin de l'emploi. C'est totalement malheureux. Il est important d'encourager le ministre du Travail, non pas simplement à prendre des mesures de suspension ou, je ne sais pas, d'interdiction de fonction, celles qui viennent de les prendre contre les agences de placement, mais il faut qu'il aille plus loin pour qu'au niveau du gouvernement, au sein du gouvernement, c'est son secteur, qui est, à mon avis, un secteur très important, probablement le plus important secteur du gouvernement, le plus important thème d'une campagne électorale à travers le monde entier, tout le monde le sait, c'est la lutte contre le chômage, c'est l'emploi qu'on promet aux citoyens de tous les pays du monde. Mais le ministre du Travail doit savoir qu'il a entre ses mains la gestion du sort des millions de Congolais, qu'il a entre ses mains l'espérance profonde du Congo, et donc l'organisation du marché du travail est quelque chose de très important et pour lequel il faudrait encourager le ministre à aller au-delà de la simple mesure de suspension pour qu'elle ne passe pas pour un simple règlement des comptes. Voilà, à mon avis, ce que je peux dire d'entrée de jeu sur la question. C'est une mesure courageuse, mais une mesure très pertinente, une mesure, j'allais dire, opportune. Mais il faut aller au-delà pour ne pas nous laisser sur un chantier inachevé.
Alors, aller au-delà, Michel Somoué, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Est-ce que vous avez des propositions concrètes, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Alain, je vous ai toujours dit qu'on doit organiser l'économie congolaise. Ça veut dire qu'on doit la structurer, donner du contenu à chacun des marchés qui constituent une économie nationale. Le marché des biens et services, le marché du travail, le marché monétaire, le marché financier, qui englobe en fait le marché d'échange. Je veux dire que ces marchés-là, ils n'existent pas chez nous. C'est parce qu'ils n'existent pas que l'économie reste entièrement une sorte de jungle. Il faut organiser ça. Organiser, ça veut dire quoi au départ? Il faut connaître que sur le marché du travail, il y a une offre, il y a une demande. Et l'État congolais, et l'État comme tous les États du monde, ont un rôle à jouer sur le marché, un rôle d'intervention. C'est pour ça que nous sommes un système d'économie interventionniste depuis la crise de la grande crise des années 30. Les États interviennent partout où il y a des problèmes, sur chaque marché où il y a des problèmes, les États ont l'obligation d'intervenir soit pour booster la demande, soit pour satisfaire la demande, soit pour booster l'offre du travail. Et l'offre du travail, ce sont les demandeurs d'emploi. Mais la demande de travail, ce sont les sociétés qui engagent. L'État peut passer du côté des employeurs, de ceux qui demandent le travail, de ceux qui offrent des emplois. Il peut passer de ce côté-là et être, il a toujours été d'ailleurs ainsi, à travers le monde entier, les États sont toujours les plus grands employeurs. Mais ça, c'est une question qu'il faudrait également résoudre. Être un grand employeur ne veut pas dire amasser des tas de gens qu'on ne paye pas. Ça veut dire qu'il faut aussi au départ donner un contenu à la variable salaire, sur variable. Il faut lui donner un contenu et savoir que le travail a un prix, et ce prix s'appelle le salaire. Le salaire, c'est le prix du travail. Et quelle est la quintessence du prix que l'on donne au travail effectué? Le salaire lui-même a été défini dans la théorie économique par le
professeur. Merci Michel Sommet, je vous redonne la parole tout à l'heure. Polydor Tanguely, vous êtes psychologue du travail, analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Vous avez suivi Maître Maléré ainsi que Michel Sommet. Quelle est votre analyse?
Merci pour la parole. Je constate ici que le ministre s'est ressaisi pour une problématique qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années. Il a été le premier ministre à pouvoir prendre le courage de suspendre l'hémorragie dans ces secteurs. Quelle lecture je fais de cette décision? Je me dis qu'on est là en face d'une situation qui était en déconfiture. Et on veut mettre fin à cette déconfiture. Mais cependant, je voudrais ici qu'on ne puisse pas prendre seulement une décision et oublier les facteurs explicatifs de la situation où on en est. La situation où on en est le résultat de beaucoup de facteurs. Monsieur Michel Sommoy a présenté ici comment se compose le marché d'emploi. D'une part, il y a les demandeurs d'emploi et il y a les offreurs d'emploi. Mais à l'intermédiaire, il y a le régulateur de ces marchés, qui est le pouvoir public. Que ce soit en matière de placement, que ce soit en matière de sous-traitance, que ce soit en matière de gestion du personnel, il y a l'appareil gouvernemental qui a tous les instruments requis pour pouvoir faciliter ces marchés. Et ceci arrive exactement puisque la structure devant jouer ses rôles de liaison entre les demandeurs et les offreurs, pas seulement des liaisons mais des réglementations, n'a pas été à la hauteur. Je suis en train de m'expliquer ici, monsieur Alain. Au fait,
donc défaillance au niveau de l'État.
Et défaillance au niveau de l'État. De quelle manière? Au fait, toutes ces sociétés de placement, lorsqu'elles viennent demander leur autorisation de fonctionnement, ils ont un cahier des charges. Ils ont un cahier des charges. Mais le ministère ne pouvait pas seulement se limiter à pouvoir accorder des autorisations, mais aussi à faire le suivi de leur applicabilité. C'est vrai qu'on s'est ressaisi un peu plus tard pour dire, voilà, il y a des dérapages, il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce que, effectivement, la structure gouvernementale a utilisé les outils qui sont à sa disposition, notamment l'inspection générale du travail? Est-ce que l'inspection générale du travail a été vraiment efficace pour qu'aujourd'hui on ne dise pas qu'elle a été co-auteur de ce qui est arrivé? L'administration du travail, et même l'ONEM aussi, qui est pratiquement le partenaire requis que le gouvernement a mis en place vis-à-vis de toutes ces sociétés de placement. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, je suis en train de me poser la question de comprendre un peu l'exhaustivité de la décision qu'a prise le ministre. Puisqu'au fait, tel qu'elle a si bien décrit le directeur des cabinets adjoints, nous avons affaire à deux parties qui traitent d'une question qui concerne des personnes qui rendent service. D'une part, nous avons l'employeur qui utilise un personnel, mais qui est géré par quelqu'un qui n'est pas qualifié. Ce qui revient à dire la structure qui n'est pas qualifiée. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une société de sous-traitance, c'est plutôt une société de placement, mais qui fait office de sous-traitance.
Donc il y a une forme de tricherie, en fait.
De tricherie. Ce qui revient à dire que la décision aurait été beaucoup plus complète si elle sanctionnait à la fois l'auteur et les complices, puisqu'au fait, l'employeur, les différentes entreprises qui ont traité avec les sociétés de placement, mais qui ont joué le rôle des sociétés de sous-traitance, sont complice de tout ce qui est arrivé. Mais nous restons dans la soif ici de comprendre quel est le sort qui a été réservé à toutes ces entreprises qui ont été complices de tout ce qui est arrivé. C'est vrai que la décision parle du secrétaire général et de l'autorité de l'ONEM qui devront exécuter la décision du ministre, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire, non seulement à pouvoir suspendre leur activité, mais faut-il encore se poser la question de savoir quel est le sort qui sera réservé à toutes ces personnes qui continuent à travailler, quel sera leur statut juridique, étant donné que la structure à laquelle elles sont liées est privée de ses attributions. Voilà un peu... oui, vous voulez dire.
Alors, dans le cadre de l'assainissement du marché de l'emploi en RDC, cette décision est-elle primordiale? Fallait-il commencer par là?
Bon, je crois que la décision est bonne. Nous ne pouvons pas émettre un avis radicalement opposé à cette décision. Mais ce que je suis en train de faire comme lecture, c'est qu'en amont, beaucoup de choses devaient être faites, notamment identifiées. Les problèmes ont été identifiés, mais penser à la remédiation de tous les effets négatifs que ces problèmes ont produits. Ils sont suspendus. Mais quelles dispositions on a prises pour faire face, pour résoudre toutes ces plaintes, puisque en tant que psychologue, je me dis, toutes ces personnes qui ont travaillé dans ces conditions pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 3 ans, 2 ans, sont dans un état moral aujourd'hui très déplorable.
Merci.
Qu'il faut une certaine perspective de résolution de ces problèmes.
Voilà, Maître Maléré, avant de ramasser toutes ces préoccupations, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
J'adore le climat à partir de Bukavu, à province du Sud-Kivu. L'envie du ministre Modeste Bahati d'interdire à ses 49 services de placement privé du sous-traitant à exercer à Kinshasa est salutaire. Par ailleurs, il est à reprocher à ce service d'avoir passé outre leur mission et de s'enrichir au dos des travailleurs. Je me demande de quelle mission s'agit-il alors que le rôle d'engagé revient au sein de l'État. En plus, le ministre se veut compatissant avec les travailleurs alors que la politique d'emploi chez nous a montré ses limites. C'est pourquoi, applique-t-on l'adage, à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a.
Maître Maléré, défaillance de l'État.
Oui, merci beaucoup Alain. J'ai enregistré toutes les réactions et je voudrais saluer ici toutes les interventions, y compris de toutes les personnes qui sont avec nous sur ce plateau ou par téléphone. Et donc, je voudrais dire ici que la problématique de l'emploi, contrairement à ce que l'on croit par le commun des mortels, est très complexe. Et pour ne parler que du mandat du ministre, son excellence, sur le ministre de l'Emploi, il a tout de suite compris que, en fait, nous avons les textes légaux qui existent et réglementaires, qui sont pour la plupart bons. Le Code du travail date d'à peine 2002, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a un certain nombre d'autres textes qui organisent les différents secteurs de l'emploi, qui sont bons, comme celui que nous sommes en train d'évoquer tout à l'heure par rapport aux services de placement. Mais le problème qui se pose, c'est l'application de toute cette législation. Et par rapport à cela, il y a un certain nombre d'outils dont l'État dispose en termes de services qui sont censés aider l'État, n'est-ce pas, à remettre de l'ordre, comme d'aucuns l'ont dit, dans ce secteur. Et l'un des outils majeurs, c'est l'inspection générale du travail, qui a été évoqué ici. Vous constaterez, pour ceux qui le savent, que les effectifs de l'inspection générale du travail sont pour le moment déficitaires. Il y a, pour couvrir toute l'étendue de la République, avec tout ce que nous avons comme entreprise en République démocratique du Congo. Un état des lieux a été fait par son excellence, monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, qui a soumis la question au gouvernement, et son excellence, notamment monsieur le premier ministre, a été très sensible à la question, et a ordonné que la redynamisation de l'inspection générale du travail soit, n'est-ce pas, directement engagée, en termes d'assainissement de ce service, de sa restructuration, et d'engagement des nouvelles unités, des universités, des jeunes, du nouveau sang, qui peut permettre à l'inspection générale du travail, qui a maintenant pour moitié, on a même parlé de près de deux tiers des cadres vieillissants, qui ne savent plus, n'est-ce pas, exécuter non seulement vieillissant, mais en sous-effectif. Alors, le gouvernement a engagé une action de redynamisation de ce service, et cela a déjà été annoncé, et je crois notamment aussi sur vos ondes, qu'à terme, le gouvernement voudrait recruter à peu près 1000 jeunes universitaires pour les injecter dans l'inspection générale du travail et permettre à ce que cet organe important du contrôle du respect de la législation sociale puisse effectivement jouer son rôle. Là, c'est une réforme qui est engagée. L'ONEM, dont on a parlé tout à l'heure, l'Office National de l'Emploi, qui est censé, régir tout ce qui est placement et ce dont on va parler ici. L'ONEM a souffert pendant très longtemps de manque de moyens. Et avec son excellence, monsieur le ministre de l'Emploi, son excellence Bahati Lukwebo, les moyens ont été donnés à ce service depuis très récemment, là, en 2013 ici, en ce qu'il a pris un arrêté qui institue, n'est-ce pas, une taxe en faveur de ce service. Et depuis que ce service a commencé à percevoir cette taxe, il est en train de s'équiper et de se déployer. Ce n'était pas le cas dans le temps sur toute l'étendue de la République. Ce qui fait qu'il ne parvenait pas à rendre les services que la nation attendait de lui, ce service-là, parce qu'il n'était même pas déployé. Au moment où nous parlons, l'ONEM a fini de se déployer dans toutes les provinces de la République et est en train de s'équiper en matière matériel informatique, serveur, etc. Et nous pensons que si toutes ces réformes, n'est-ce pas, aboutissent comme le gouvernement le souhaite, le marché de l'emploi sera progressivement mieux régulé.
Alors, maître, il y a Michel Somoué qui a souhaité qu'il fallait aller plus loin au lieu de se limiter à la seule suspension. Et Polydor Tanguedi s'est posé la question de savoir pourquoi une décision exhaustive, il fallait sanctionner tout le monde. Disons les fautes, ceux qui sont en faute, quoi.
Oui, bon, évidemment, vu de Monsieur Polydor, les choses paraissent peut-être aussi faciles à faire parce qu'il veut tout et tout de suite. Mais comme vous le savez, le gouvernement non seulement essaye de sauvegarder les droits des travailleurs, mais a aussi pour tâche de sauvegarder les emplois. Parce que si on ferme une entreprise comme ça, au motif qu'elle a violé la législation sociale, etc., finalement, il y a ce que l'on pourrait appeler des dégâts collatéraux. Ça veut dire qu'on envoie quand même, finalement, de nombreux autres compatriotes au chômage. Et donc, le gouvernement doit arbitrer entre tous ses intérêts et par une méthode pédagogique, notamment en passant par les organisations qui représentatives des employeurs, FEIC, COPEMECO et les autres, essayer de la faire de la pédagogie pour amener les entreprises à se conformer à la loi.
Voilà. Michel Somoué, nous prenons pour vous une fois de plus cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Jean Bazilère, depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Si les entreprises à ce jour exagèrent dans la rémunération des travailleurs, c'est parce qu'elles ont remarqué que le gouvernement ménage moins d'efforts dans la création des emplois et estime avoir pris ses rôles qui appartiennent plutôt à l'État. D'où ça réchiffre au dos des travailleurs. En effet, le ministre, dans sa décision, ne voit-il pas qu'il rend chômeur tous ces travailleurs de ces entreprises malgré leur salaire dérisoire? Je pense que le gouvernement, à son niveau, doit toujours renforcer la création des emplois.
Michel Somoué.
Je ne suis pas sûr d'avoir très très bien capté l'intervention de l'ami de Bukavu, mais si je comprends bien, ce qu'il met en cause et que je pense qu'il faut reconnaître, c'est la puissance de l'État par rapport aux employeurs. Nous sommes un pays, comme j'ai dit tout à l'heure, où le taux de chômage est excessif. Alors cela met les quelques employeurs que nous avons dans ce pays dans une situation de force par rapport à l'État, au pouvoir de l'État. Ce qu'il faut, c'est renforcer l'efficacité de l'État et la puissance de l'État. On ne va pas réussir à organiser le marché du travail de façon isolée si nous n'organisons pas en même temps le marché des biens et des services, c'est-à-dire implicitement la politique budgétaire. La politique budgétaire, elle sort du marché des biens et des services. Le directeur du cabinet adjoint vient de le dire, l'ONEM a beaucoup souffert de l'insuffisance des moyens, l'inspection du travail souffre énormément de l'insuffisance et des moyens et du personnel, et tout cela implique la capacité de l'État à se doter d'un budget adéquat. Or, l'État congolais a des difficultés sur le plan de la conception et de l'exécution du budget. C'est ce qui met en difficulté les autres marchés. Voilà le problème que nous avons, M. Alain.
Michel Somoué, il y a Malunga qui nous écrit de Bandundouville qui dit « C'est de la sorte que les autorités congolaises décident depuis les faits passent sans réaction ni sanction récalcitrant, alors que la manière était bonne et légitime, d'où pourquoi tant de décisions qui ne produisent rien ?»
La décision ne va pas rien produire parce que la preuve est là, les maisons sont, les placements sont suspendus. Mais comme a dit M. Polidor tout à l'heure, moi je crois et je renforce le point de vue que je disais, moi j'ai demandé qu'on aille au-delà de cette mesure, non pas en nous limitant au secteur du marché du travail, mais qu'on aille dans l'organisation des autres marchés, le marché des biens et services, comme je viens de dire, en renforçant l'efficacité de la politique budgétaire, qu'on aille du côté de la politique monétaire pour donner à l'économie les moyens de survivance et la possibilité par la politique de crédit de générer plus d'emplois, plus d'entreprises. Et donc à ce moment-là, on va briser en quelque sorte le cartel d'employeurs que nous avons actuellement qui tutoie l'État congolais. Mais au-delà de ça, ce qu'il faudrait mentionner, comme l'a dit Polidor, c'est que lorsque on constate un mal et qu'il y a un corrompu et un corrupteur, lorsqu'il y a un mal qui a été consommé, il faut sanctionner toutes les parties prenantes à ce mal-là. Dans le cas d'espèce, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le ministre a bien constaté qu'il y a des maisons de placement qui sont en train d'abuser de l'agrément qu'il leur a accordé, en bouffant sur le dos des travailleurs le salaire qu'il réduit, avec la complicité de l'employeur. Moi, je crois qu'il faudrait, primo, que tous ces gens-là, les maisons de placement, soient déférées devant la justice pour restituer ce qu'ils ont volé aux employés, et que leurs complices, les employeurs également, soient sanctionnés de quelle façon, même si l'État n'a pas la capacité de les fermer. Mais au moins, à tout le moins, que ces maisons soient dans l'obligation de régulariser les contrats de travail qui ont été signés entre ces agents-là et les maisons de placement.
Michel Soumoué, il y a également professeur Ignace Ndala de Kolwezi-Okatanga qui dit « Je pense que cela devient très curieux de voir nos ministres beaucoup plus policiers juste quand ils sentent s'ouvrir leurs portes de sortie. A-t-on bien mûri la décision pour ne pas recommencer le feuilleton Startime? Le ministre ne formule-t-il pas le même reproche lui fait par les autres aussi ?»
De toutes les façons, moi je constate qu'il y avait un mal dans ce pays et qu'il fallait absolument qu'une mesure du gouvernement soit prise par rapport au mal qui a été longtemps entretenu. Mais que quel que soit le moment auquel la mesure est prise, à partir du moment où elle vient pour corriger un mal, je crois qu'il faut la saluer. Parce que le mal a été là et le mal est là, il faut arrêter, ça c'est important. Mais que ce soit une mesure prise de façon opportuniste parce que le gouvernement est à la porte de sortie, ça c'est un jugement, je pense, à la limite subjectif, mais ça n'engage pas du tout. Et je crois que celui qui l'a dit, il a su la réponse qu'il a dit. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que il y a une mesure, il y a une sanction qui a été prise, elle est pertinente, est-ce qu'elle est opportune, est-ce qu'elle est bonne, ça me suffit.
Voilà, Polidor Tangeli, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Docteur Jean-Paul Ndanda, je vous appelle à partir de Lubumbashi dans le Katanga. Une fois de plus, une décision impopulaire du ministre. Je suppose que toutes ces sous-traitances sont en ordre avec l'État congolais. Et l'important dans ce dossier, si pas le préalable, c'était de palabrer avec l'employeur, les délégations syndicales, et même aussi les travailleurs, parce que ce sont eux qu'on veut bien protéger, trouver un terrain d'entente au lieu de mettre au chômage des responsables de famille. Bref, cette décision est suicidaire pour les quelques familles chinoises. Et plus loin, je me pose même la question de savoir, n'y a-t-il pas de dessous de cartes? Le cas de Startime et les gens.
Polidor Tangeli.
Merci beaucoup pour la parole. Bon, je ne suis pas d'avis avec mon ami de Lubumbashi qui pense que la décision est impopulaire, puisque il en était de trop, mon cher frère Alain. Tout le monde se plaignait de cette décision. Nous embrassons la décision à bras les corps. Mais cependant, je le rejoins lorsqu'il parle de préalable. Mon cher ami, lorsqu'on parle de interdire toute activité, quel contenu on donne au terme interdire? Est-ce qu'ils cessent d'exister? Alors que du fait de leur existence, ils liaient certaines personnes à un emploi donné. Ce qui revient à dire, de facto, ils deviennent des chômeurs. C'est là où je peux le rejoindre pour dire, il fallait préciser beaucoup de choses. Je pense que le secrétaire général et les autres autorités qui vont appliquer la décision vont aller dans tous ces détails-là pour pouvoir trouver une solution commode à ces problèmes. Mais cependant, je me dis aussi ici que fallait-il vraiment suspendre toutes ces sociétés, interdire
l'exercice de l'activité, puisque cette interdiction a des conséquences. Notamment, la première conséquence, c'est que toutes les personnes qui gèrent cette société vont être en chômage, ça aura des effets multiplicateurs. J'aurais bien voulu qu'on parle plutôt d'une suspension préventive. Une suspension préventive qui sera suivie d'une phase de régularisation, après quoi, ceux qui vont se conformer, ceux pour lesquels on mettra des garde-fous, pourront reprendre leurs activités en bonne et due forme, en mettant aussi des garde-fous, qu'en attendant, les autres personnes continuent à travailler ou on les reverse au compte d'une société quelconque de sous-traitance. Cela donnera un contenu beaucoup plus commode à la décision, plutôt que de parler d'une interdiction formelle d'activité. Et c'est tellement global qu'on ne sait pas aujourd'hui que vont devenir toutes ces personnes qui gèrent cette structure, que vont devenir les personnes qui étaient en soi-disant sous-traitance. Donc il y a beaucoup de questions sur le contenu à donner à la décision. Mais la décision est quand même une décision qui n'est pas impopulaire.
En parlant des préalables, Polydor Tanguely, Maître Maléré a souligné qu'il y avait beaucoup de dialogues avant que cette décision ne soit prise.
Mais mon frère, il y a aussi des dialogues de sourds. Il y a des dialogues de sourds qui se font, où on se lance dans un processus typiquement folklorique.
Stérile,
on reste dans des discours et il faut savoir encore quel était le contenu des échanges dans ces dialogues. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, le ministre a pris sa décision, mais nous n'avons pas encore la réplique de toutes ces sociétés. Vous avez vu, le cas StarTime a fait couler beaucoup d'encre, puisque lorsque StarTime a répliqué, on a compris qu'il y avait à boire et à manger. Donc, il y a eu dialogue, mais quel a été ce dialogue? A-t-il été un dialogue de sourds? Je me pose la question. J'attends encore que toutes ces sociétés, qui sont au nombre de 49, qu'ils puissent réagir, et ça pourra enrichir ces feuilletons que le ministre vient d'ouvrir.
Kassamba nous écrit de Bounia en province orientale, il dit c'est une bonne chose, une bonne décision en soi, mais ne rejoindra-t-elle pas tant d'autres dans le monde des lettres mortes, car la plupart de ces maisons de placement ont comme parapluie des hommes politiques et des mandataires de l'État dans les entreprises mixtes.
Bon, exactement, là, c'est un problème qui touche à l'éthique politique même, puisqu'aujourd'hui nous constatons que l'éthique politique pose problème au niveau de la République démocratique du Congo. Tout est politisé et le protectorat s'est fait en tout et pour tout. Question ici que la problématique soit une problématique gouvernementale, que le ministre du Travail ne puisse pas agir en solo. C'est vrai que la réforme de l'Inspection Générale du Travail a connu l'implication des différents intervenants dans le monde d'emploi, notamment le ministère de la fonction publique, le ministère de finances, ainsi de suite, mais que cette problématique de la sous-traitance de sociétés de placement qui font office des sociétés de sous-traitance soit une politique gouvernementale, de manière à ce qu'il y ait implication de différentes structures, notamment les structures de sécurité, les structures administratives.
Merci.
Pour qu'au finish, on aboutisse à un résultat de bonne odeur.
Maître Maléré, que vont devenir ces entreprises de placement, les travailleurs en sous-traitance, qu'est-ce qu'ils vont devenir toutes ces personnes?
Merci beaucoup M. Hirung pour cette question, parce que ça me permet de rappeler ici à ceux qui ont suivi son Excellence le ministre de l'Emploi dans sa conférence de presse du 15 dernier, du samedi passé, eh bien, la question lui a été posée. Il a tout simplement dit ceci, il a rappelé aux participants à cette conférence de presse, à ceux qui y assistaient, que toutes ces personnes qui ont été placées, nous sommes ici dans l'optique du placement, ces personnes ont été placées parce que leur profil correspondait à une offre d'emploi, tel que cela a été dit ici. Ça veut dire que les employeurs ont besoin de ces gens-là. Et c'est là que je pense qu'il faut qu'on rassure ceux qui sont intervenus par rapport au sort des travailleurs en question. Les employeurs en ont besoin et ont exprimé ce besoin auprès des maisons de placement qui les ont placés. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là parce que ils sont en train, ces travailleurs, d'effectuer un travail pour lequel les employeurs ont besoin de leurs services, de leurs compétences, de leurs profils. Mais le problème, c'était au niveau de la gestion de ces travailleurs et des obligations des employeurs vis-à-vis de ces travailleurs-là. Alors, le ministre a dit ceci. Un, la première option, c'est que les employeurs qui ont besoin de ce personnel-là vont être amenés à passer directement des contrats avec ce personnel. Deuxième option, on n'a pas interdit toutes les maisons de placement de la République. Il y a des services privés de placement qui, eux, respectent la loi. Et donc, pour les cas où les employeurs tiennent à obtenir des services de placement, eh bien, ils peuvent s'adresser aux services de placement qui, eux, sont en ordre et obtenir du personnel auprès de ces services de placement-là. On n'a pas interdit tous les services. Et enfin, le ministre a dit que le recours, n'est-ce pas, est ouvert à ces services de placement qui ont été interdits d'exercer dans la mesure où l'autorité peut se tromper par rapport à telle ou telle autre information qu'elle a reçue du service gestionnaire de ce secteur, c'est-à-dire l'ONEM. Et donc, ils peuvent faire exercer leur recours et être admis, n'est-ce pas, à se conformer à la loi et à exercer.
Merci.
Donc, attention, on n'a pas jeté les gens dans la rue. Ces gens continuent à prester au moment où nous disons, et je termine à l'air en vous révélant que des employeurs, des grosses entreprises ont même appelé pour encourager et dire, tiens, nous ne savions pas que nous traitions avec quelqu'un qui allait maltraiter le personnel. Donc, ils sont aussi contents.
Michel Sommoué, toutes ces précisions apportées par Maître Maléré vous appellent-elles?
Oui, absolument. Mais ce que nous disons, c'est que, comme il dit, nous n'avons rien contre les maisons de placement. Nous dénonçons, nous disons que ce qui est mauvais comme pratique doit être sanctionné. Les maisons de placement sont utiles. Je dis que ce sont des commissionnaires sur tous les marchés de travail dans le monde. Vous avez des commissionnaires qu'on appelle des agences de placement. Nous en avons besoin dans notre pays aussi. Mais on ne peut pas transformer un contrat de placement avec le muet en un contrat de sous-traitance d'une entreprise qui ne vous a pas agréé. Là, ça devient de la tricherie. Là, je dis, là où il y a la tricherie, il y a mauvais comportement, la sanction, elle est pertinente, elle est justifiée. Donc, je pense que toutes les précisions que Maître Maléré vient d'apporter à nos préoccupations, je crois qu'elles sont, elles sont apaisantes pour l'essentiel. Quitte à voir, après les recours de ceux qui ont été interdits d'activité, quitte à voir le contenu de leur justification, comme dit Coulidor tout à l'heure.
Alors, Michel Sommoué, en tant vers la fin de l'émission, pouvez-vous déjà conclure?
J'encourage le ministre Bahati à être cohérent à sa mesure pour que le mal soit extirpé. Chaque moindre mal qui est extirpé dans notre pays nous fait avancer d'un pas. Et je souhaite que le gouvernement, s'il est objectif par rapport à la mesure de M. Bahati, si le gouvernement estime que les raisons avancées par M. Bahati tiennent la route et qu'elles sont fondées, que le gouvernement soutienne son ministre pour éviter les épisodes, comme on l'a dit, des Star Times et autres. Mais je crois qu'il faudrait que, si on est tous convaincus que la mesure est salutaire, elle est utile et pertinente, il faut qu'il y ait une cohésion au niveau du gouvernement qui soutient son ministre.
Merci.
Parce que c'est pour l'intérêt de la nation.
Merci, Polydor Tanguely. Êtes-vous apaisé?
Je suis quelque peu apaisé, comme je l'ai dit, la décision est bonne, mais faut-il encore l'enrichir, lui donner un contenu beaucoup plus riche pour que, de part et d'autre, qu'on ne laisse pas de partis. Je suggère ici que l'approche soit gouvernementale, qu'elle soit interinstitutionnelle, qu'on voit toutes les structures s'impliquer, et que le ministre ne se limite pas à cette problématique, puisque le monde de l'emploi est riche en problèmes, qu'on aille jusqu'au niveau de l'emploi des journaliers qui font plusieurs années
sans contrat,
donc beaucoup de choses à redire ici. Nous l'attendons, il n'a fait que poser les jalons. Nous l'attendons dans d'autres secteurs, mais je suggère ici que l'approche soit interinstitutionnelle, sinon il va se retrouver dans un îlot, mais qu'au-delà de ça, qu'il y ait réparation. Toutes ces personnes qui ont presté dans une tricherie méritent une réparation et que des actions judiciaires puissent être ouvertes à l'encontre de toutes ces personnes, mais aussi insister pour que les complices qui sont les employeurs, même si on ne peut pas fermer les entreprises,
merci,
mais qu'ils contribuent à la réparation de toutes ces personnes, qui ont été, dont les droits ont été bafoués à un moment de l'histoire.
Merci. Maître Malher, et conclusion.
Oui, je conclue en disant ici que tous ceux qui craignent, j'ai entendu beaucoup parler de l'épisode Star Time, eh bien, je voudrais dire que nous ne sommes absolument pas dans ce schéma-là parce que, comme vous le savez, Son Excellence Monsieur le Premier ministre est l'un des premiers ministres de ce pays qui coordonne réellement l'action de son gouvernement. Et donc, tout ceci a été fait après que le ministre se soit adressé au chef du gouvernement pour la visée de certaines mesures qu'il allait prendre dans le secteur. Donc, que les auditeurs aient leurs apaisements.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Fin de dialogue entre Congolais de ce soir. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net. Au revoir.